Nous allons avoir le plaisir d'écouter M. Artigot nous présenter Émilie de Villeneuve parmi les siens, puisque le 8 décembre 1836, Émilie fondait notre congrégation dans cette ville de Castres. Je crois qu'à Castres, tout le monde connaît M. Artigot, professeur d'histoire, membre très actif de la Société culturelle du pays castré, ce qui nous a valu, vous le savez, la publication des Grands Jours de Castres, livre si riche et si apprécié. Nous bénéficierons ce soir de son talent, mis si souvent au service de tous les habitants de cette ville. Son approche d'Émilie de Villeneuve était déjà préparée, en quelque sorte, par l'étude qu'il a faite sur Coralie de Guys, dernièrement. Et je suppose qu'en préparant l'entretien qu'il va nous donner ce soir, il aura eu plaisir lui-même à retrouver ce qui unit Coralie et Émilie, ces deux amies que nous évoquions l'année dernière, d'ailleurs, en parcourant les allées du château de Guys.
Mesdames et messieurs, c'est en effet la troisième fois que j'entreprends le portrait d'une jeune fille, d'une demoiselle, selon le terme que l'on employait au XIXe siècle, pour parler des jeunes filles de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Après Louisa Ouradou, la poétesse de Brassac, une bourgeoise, après Coralie de Guys, une aristocrate, non loin du château d'Hauterive, voici le tour d'Émilie de Villeneuve. Lorsque le couvent bleu m'a demandé de parler d'Émilie de Villeneuve, mon premier sentiment a été un sentiment de reconnaissance pour celle qui avait donné à la ville l'une de ses plus belles institutions. Lorsque je me suis lancé dans ce travail, j'ai mesuré toute la difficulté d'une telle entreprise, surtout pour celui qui, comme moi ce soir, veut se tenir uniquement à la civile, c'est-à-dire à la période qui va de sa naissance jusqu'aux années 1832 ou 33, le moment où elle déclarera à ses parents « Je veux devenir sœur de charité ». Sur cette période-là, nous avons finalement très peu de sources. Justement, Coralie de Guys, son amie, quelques lettres d'elle-même et des témoignages qui sont postérieurs à sa mort des membres de sa famille. C'est dire si la matière est étroite. Et j'avouerai bien humblement, un historien, qu'elle ne permet sûrement pas de déterminer complètement quelle était la personnalité de cette demoiselle. C'est pourquoi j'ai tenu à l'éclairer en la présentant parmi les siens. Parce que je crois que sa famille, et peut-être même au-delà de sa famille, ses grands-parents, permettent de mieux comprendre la personne qu'elle a été. Alors je ne sais si j'aurai réussi à la fin de cet exposé, vos questions me permettront peut-être de mesurer dans quelle étendue je serai parvenu à mon dessein. La rue du Vieux-Raisin reliait autrefois le couvent des Carmes au palais du Parlement de Toulouse. Elle a disparu à la fin du siècle dernier pour faire place à la percée de la moderne rue du Languedoc. Et avec elle ont disparu la plupart des anciens hôtels qu'avaient fait construire les parlementaires du XVIIe ou du XVIIIe siècle. C'est pourtant dans l'un de ceux-ci qu'était venue au monde le 9 mars 1811 Jeanne Émilie de Villeneuve, troisième fille du comte Louis et de son épouse, née Rosalie d'Avecins. Napoléon était alors à l'apogée de sa puissance. La France, prodigieusement dilatée, comptait Amsterdam, Rome et Hambourg parmi les chefs-lieux de ses 130 départements. Du Guadalquivir au Niémen, l'Europe entière reconnaissait sa puissance. La jeune impératrice Marie-Louise allait donner au monarque le vin du courant, ce 20 mars 1811, l'héritier mâle tant désiré pour assurer la pérennité de son trône. Pourtant, autour du berceau d'Émilie de Villeneuve, on faisait peu de cas de la puissance du conquérant et du succès de ses armées. En vain s'était-il fait proclamer empereur, il était toujours, pour eux, Bonaparte. Pourtant, le héros fascinait. Lorsqu'en 1808, il était passé à Toulouse, venant d'Espagne, la famille de Villeneuve était sur le trajet de son cortège. Mais on ne pouvait lui pardonner ni de tenir son pouvoir de la Révolution, ni d'usurper le trône d'une dynastie que les Villeneuve et les Davesseins servaient depuis toujours. En effet, à la veille de 1789, Chérin, le sévère généalogiste des ordres du roi, avait daigné écrire « Je regarde messieurs de Villeneuve comme les Montmorency de cette province ». L'appréciation était flatteuse. En effet, les Montmorency sont apparus au Xe siècle, en même temps que la dynastie capétienne. Et pourtant, cette appréciation était inférieure à la vérité, car les Villeneuve, qui sont probablement d'origine wisigothe, pouvaient prétendre à des ancêtres déjà éminents au IXe et même au VIIIe siècle. Au rude temps du Moyen-Âge, les chevaliers de cette maison avaient été de tous les combats. Pour avoir été fidèles au comte de Toulouse, par exemple, et résisté à Simon de Montfort, l'un d'eux s'était vu confisquer leur fief de Villeneuve-les-Béziers, qui leur a donné son nom. Plusieurs s'étaient illustrés aux croisades. L'un d'entre eux, compagnon de Saint-Louis, était mort avec le roi devant Tunis. Les temps modernes, bien sûr, avaient changé ces preux en gentilhommes, sans pour autant leur ôter leur raison d'être, qui était de servir leur dieu ou leur roi. Au XVIIIe siècle, l'une des branches des Villeneuve était installée au Crozillat, dans le Lauragais toulousain, non loin de Caraman. Geneviève Duhamelet a su peindre, en peu de mots, le cycle immuable auquel semblaient astreintes ces successives générations. Parmi les nombreux enfants, il se trouvait toujours un cadet engagé dans l'armée, un autre dans les ordres, ou chevalier de Malte, une ou deux religieuses, des tantes berceuses. L'aîné se mariait avec une fille pieuse, noble et pauvre, et peuplait à nouveau la gentilhommière, et l'histoire recommençait. Les traditions les mieux établies doivent parfois céder aux caprices du destin. En 1766, l'un de ses cadets, voué au métier des armes, et qui d'ailleurs s'y était très honorablement comporté puisqu'il était devenu capitaine, fut assez heureux pour conclure un riche mariage. L'épousée se nommait Marguerite Rose d'Amblard. Elle était fille d'un manufacturier de Saint-Pons, anobli de fraîche date, certes, mais aussi enrichi par le commerce des draps avec les échelles du Levant, c'est-à-dire avec les ports de la partie orientale de la Méditerranée. Elle avait été élevée dans un couvent de Toulouse avec les filles des meilleures familles de la ville, et elle rêvait de fréquenter le monde. Bientôt, grâce à elle, les Villeneuve reprirent leur place dans ce vieux Toulouse qui les avait tant oubliés. 5 enfants naquirent de ce mariage, parfois à Toulouse, presque toujours à Saint-Pons, où demeurait fixée la résidence principale de la famille, et où Rose d'Amblard, d'ailleurs, avait conservé la fabrique paternelle qui était une source d'importants revenus. Le ménage aurait pu se satisfaire de cette situation confortable s'il ne s'était agi de vivre noblement. Or, cela exigeait sous l'Ancien Régime la possession d'une seigneurie, c'est-à-dire d'une terre. Après bien des recherches, le choix s'était porté sur Haute-Rive, à une grande lieue de Castres qui était alors à vendre. Un héritage opportun de Jean de Villeneuve et la fortune de Rose d'Amblard en permirent l'acquisition en 1776. Le comte Louis avait alors 8 ans. 1776, c'est précisément l'année où Louis XVI fait de Sorèze l'une des 12 écoles royales militaires. Et le jeune garçon et son frère ne tardèrent pas à aller y compléter leurs études qui avaient été commencées auprès de leur mère. 6 ans plus tard, à peine âgé de 14 ans, il embarquait comme élève de marine pour prendre part au dernier combat de la guerre d'indépendance américaine. Puis, il accompagna le duc de Choiseul dans son ambassade à Constantinople avant de faire campagne aux Antilles, en Norvège et puis au Levant. Et c'est justement à Smyrne que lui parvint, avec beaucoup de retard, la nouvelle de la Révolution de 1789. Il revint en France pour trouver ses parents emprisonnés dans les prisons de Saint-Pons et les patriotes de cette ville mal disposés à son égard. Il émigra, il s'empressa d'émigrer, dit sa fille Léontine, d'abord en Savoie, dans la région de Chambéry, puis à Constance, où il vécut alors en fabriquant des boîtes de toutes les formes et des écrans de toutes les dimensions que sa logeuse allait vendre. Et finalement, il se réfugia dans les états du duc de Brunswick. En 1800, la politique de réconciliation nationale de Bonaparte, alors premier consul, lui avait permis de revenir en France. Et c'est dans cette circonstance qu'il rencontra pour la première fois, à Paris, Jeanne, Gabrielle, Rosalie d'Avecins. La famille d'Avecins, elle, avait traversé la tempête révolutionnaire en se cachant à Paris et à Orly, considérant que la grande ville était le plus sûr des refuges. Elle ne pouvait prétendre au prestigieux lignage des Villeneuve. Selon une tradition familiale, elle constituait la descendance d'un chef huguenot venu des montagnes des Cévennes pour implanter sa croyance, sa fortune et sa famille dans le Languedoc toulousain. Il convient de reconnaître que, sur les 2 derniers points au moins, le greffon avait parfaitement réussi. Certes converti au catholicisme et catholique sincère, encore qu'ils aient conservé l'austérité huguenote, les d'Avecins de Saint-Rome avaient fait souche au château d'Agut, au diocèse de Lavaur, non loin de Revel, et au XVIIIe siècle, le marquis Paul-Jacques Barry était l'un des membres les plus en vue de l'aristocratie toulousaine. La fortune de son épouse, Gabrielle Eulalie de Riquet de Bonrepos, arrière-petite-fille par son père de l'inventeur du canal du Midi et par sa mère du grand Colbert, n'était pas étrangère à cette avantageuse position. Le salon de l'hôtel de Riquet, qui existe encore à Toulouse, 16 rue Vélane, était l'un des mieux fréquentés de Toulouse. Tout étranger avait à cœur d'y être présenté. Et peu avant la Révolution, le comte de Provence, frère du roi, le futur Louis XVIII, avait daigné y prendre l'un de ses repas. Il faut d'ailleurs ajouter que le marquis d'Avecins, outre une épouse ayant un prestigieux passé, un prestigieux lignage et une grande fortune, possédait aussi une personnalité hors du commun. Sa petite fille, Léontine de Villeneuve, a laissé de lui un vigoureux portrait. En lui, écrit-elle, on trouvait l'honnête homme au sens du XVIIe siècle, sous toutes ses formes, mais aussi une raison qui dominait tout. Ainsi, on le voyait aller au jeu, les poches remplies d'or qu'il savait perdre royalement. Mais cette somme avait été comptée d'avance. Généreux jusqu'aux limites extrêmes lorsqu'il s'agissait de venir en aide aux besoins, il ne montrait qu'une dureté méprisante car lorsqu'il s'agissait d'obliger un prodigue, car à ses yeux, une dette qui ne pouvait pas raisonnablement se justifier était une indélicatesse vis-à-vis de soi-même. Au demeurant, il ne comprenait pas la faiblesse et la laissait sans appui. Car toute âme, pensait-il, porte en elle sa conscience, cette force doit lui suffire. C'était, conclut Léontine de Villeneuve, une nature de granit. Lorsqu'en dépit de la différence à ses fortunes, le comte Louis avait osé demander la main de sa fille, M. d'Avecins avait d'abord fait quelques objections de chiffres. avant de juger. Ce ne sera cependant pas la pauvreté, grâce à la dot de ma fille, mais la médiocrité. Les goûts de Rosalie s'en contenteront, sa raison maintiendra l'ordre. Et il avait donné son consentement. Le mariage avait été célébré en 1802. 2 ans plus tard, le décès de son père avait fait du comte Louis de Villeneuve le propriétaire d'Hauterive. Et parce que décidément sa conscience ne pouvait consentir à servir l'usurpateur, l'officier de marine s'était fait agronome. Il partageait sa vie entre son domaine de Toulouse et son épouse, et plus encore sa mère, aimait la mauvaise saison venue, à retrouver, surtout pour y fréquenter le monde des salons. La première image que l'on ait d'Émilie, ou en tout cas l'une des premières images à Hauterive, se situe par une étrange coïncidence, alors que sa naissance a coïncidé avec l'apogée de l'Empire, au moment de la chute de ce dernier. L'ensemble de la famille de Villeneuve, y compris les tantes de Toulouse, sont venus se réfugier, fuyant la bataille qui se prépare au mois d'avril 1814, sous les murs de cette ville. On est le jour de Pâques, le 10 avril après la messe, et toute la famille est montée sur la roque qui domine le village. Elle a l'oreille collée contre le sol, parce que le sol propage mieux que l'air le bruit du canon, que l'on entend distinctement depuis Hauterive. Et elle est grave, elle ne sait pas à qui sera l'issue de la bataille, et naturellement, elle penche non pas pour le maréchal Soult, mais pour Wellington et pour les Anglais qui ramèneraient le roi. Et à côté, absolument indifférente au drame qui se joue à quelques dizaines de lieues, 2 petites filles, Léontine de Léaumont, sa cousine, et Émilie, ramassent des fleurs et des herbes et les déposent devant une croix de rogation. C'est l'une des toutes premières images que nous glanons de Léontine dans ce château de Villeneuve, qu'elle ne quittera pratiquement pas pendant les 10 années qui vont suivre. Elle a à ce moment-là 3 ans. Elle a passé la première année, même un peu plus, 18 mois environ, de sa toute jeune enfance, en nourrice, dans une maison toulousaine, comme cela se faisait sans distinction. Et elle est maintenant au château dans lequel elle va demeurer. Le château d'Hauterive est à ce moment-là au centre d'un domaine agricole. Il se trouve de part et d'autre du Toré, c'est-à-dire la partie qui est au sud de la carte, se trouve sur la commune de Castres, tandis que la partie qui est au nord se trouve sur la commune de La Bruguière. Il est pratiquement d'un seul tenant, et pour m'être promené dans ce paysage, je peux vous assurer que la forme des champs a peu changé depuis 1830. On aperçoit le château et tout autour ces terres, plus de 200 hectares, qui sont divisées en 3 métairies, qui abritent des maîtres-vallées, qui sont commandées par un régisseur, et dans lesquelles on fait principalement de la culture de céréales, avec en alternance des plantes fourragères, car le comte de Villeneuve, qui est un agronome distingué, a essayé d'implanter l'un des premiers dans le Tarn, les plantes fourragères. Le village se compose à ce moment-là de pauvres maisons qui font face au portail de fer du château et elles semblaient prêtes, nous dit Léontine, à rentrer sous terre avec leurs toits si bas et leur unique fenêtre. On y dénombrait pourtant plus d'habitants, je crois, que dans le Hauterive d'aujourd'hui, puisqu'il vivait environ 300 personnes qui appartenaient à une 60aine de ménages, journaliers agricoles pour la moitié, auxquels s'ajoutaient les artisans qui sont nécessaires à la marche d'un domaine. On y trouve un charron, un charpentier, un menuisier, un maçon, des forgerons, des rouliers. Et puis, il y avait naturellement l'église. Ce n'est pas l'église que nous connaissons aujourd'hui. Elle ne possède pas encore son clocher, qui ne viendra qu'en 1902, sous l'épiscopat de Mgr Mignot. Et elle est à ce moment-là presque neuve, puisqu'elle a été construite en 1766. De sa chambre, Émilie peut voir justement
l'intérieur du cœur de cette église et la lampe notamment qui brille et qui indique, vous le savez, la présence du Saint-Sacrement. En 1814, le moment où nous trouvons Émilie, le château d'Hauterive n'avait pas exactement l'aspect que nous lui connaissons. Sur le côté gauche de la grande cour s'élevaient déjà de superbes offices. C'est là que se trouvait la cuisine. Et de l'autre, qui en disparaît aujourd'hui, il y avait des écuries et des remises vétustes. Et ces deux corps étaient égaux et parallèles. Ils étaient accompagnés sur le derrière, l'un, celui des offices, d'une cour de cuisine, et l'autre, d'une cour à fumier. Et voici ces fossés stagnants, qui à l'époque n'étaient pas des fossés stagnants comme aujourd'hui, mais qui formaient un vivier qui était alimenté par des sources suffisantes pour les remplir, et on y élevait des poissons, qui étaient séparés d'ailleurs par espèces. La grande cour elle-même du château était usurpée par l'agriculture. C'est une cour de ferme, nous dit Léontine. Des poutres à peine équarries sont rangées contre la grille. Quelques instruments aratoires traînent dans un coin. Ici, du fil de chanvre est à sécher sur des barres. Là, des cendres entassées rappellent la lessive dont un cuvier sur le pas d'une porte indique le souvenir récent. Enfin, de hauts bûchers de bois se dressent, capables d'obstruer les fenêtres s'ils n'avaient été judicieusement relégués du côté des écuries et des granges. L'intérieur, quant à lui, venait de recevoir sa première transformation, ou plus exactement, sa première décoration. Voici tel qu'il se présentait à l'époque de la toute petite Émilie. On trouvait d'abord le grand vestibule et l'ancien escalier grandiose, qui s'en allait rejoindre le vestibule supérieur à six grandes fenêtres. Celui d'en bas venait d'être restauré par un barbouilleur italien, avec une peinture à fresque, simulant un marbre dont aucune carrière n'a jamais fourni le spécimen. Des dalles de pierre formaient le pavé. On avait placé là un billard, en lui faisant une espèce de compartiment particulier à l'aide d'une balustrade d'un beau marbre, réel cette fois, dont l'effet bizarre venait attirer aussitôt le regard et lui plaire tout en l'étonnant. Quant au salon, il ne ressemblait en rien à aucun salon existant alors ni plus tard. C'était aussi des panneaux peints sur lesquels se détachaient des figures de vases étrusques, d'un dessin très pur, dont les modèles avaient été retrouvés dans les fouilles de Pompéi. Panneaux entourés d'encadrements de marbre en peinture, toujours, selon le genre italien, et puis un plafond peint, et puis des lambris et des portes peints aussi, imitation de bois des îles, en mémoire, je crois, du long séjour que mon père avait fait aux Antilles. Quant au mobilier, lui, il restait des plus simples. En effet, le château avait été plus ou moins pillé à l'époque révolutionnaire. Au salon, il fallait se contenter de fauteuils très simples et de chaises de paille. Mais on se glorifiait d'un divan turc, recouvert d'une belle brocatelle rouge, excellent meuble, souvenir de Constantinople, sur lequel mon père, s'étendant au retour de ses courses agricoles, se croyait transporté dans le Levant. Dans les chambres, on trouvait à de rares exceptions près de vieux lits à l'ange qui présentaient leur garniture de perse défraîchie. Ultérieurement, ce château a été modifié. Il a été modifié pendant toute la vie d'Émilie. Disparurent les écuries vers 1820, la cour s'orna d'un parterre de fleurs et surtout le parc, qui était un jardin à la française à l'origine, se transforma pour faire place à un jardin anglais dont la mode datait d'ailleurs curieusement de l'époque impériale. Voilà. La chose qu'Émilie a connue, ce sont ces buis, ces grands buis, qui avaient pour mission de protéger le parc des assauts des OTANs et qui n'avaient donc pas pu être enlevés, sans quoi les plantes n'auraient pas poussé. Le comte Louis de Villeneuve, dans ce château, était tout entier occupé à veiller à la marche de son domaine. Et il s'est amusé à se peindre dans l'un de ses ouvrages sous les traits d'un agronome jeune. Il est d'une activité inlassable, cet agronome jeune, voyant tout par lui-même, se levant avec le soleil, ne mettant qu'un quart d'heure à ses repas, mangeant peu, car le bon agriculteur doit être maigre,
et avoir de bonnes jambes. Toujours en course, paraissant presque en même temps dans tous les lieux de travail, armé de sa lunette et du porte-voix Fellenberg, c'est un spécialiste de l'agriculture, grondant beaucoup et récompensant à propos. Mais en même temps, cet agronome est attentif au bien-être de son village. Persuadé qu'il a été placé par la Providence dans une position avantageuse, il doit en effet reconnaître ce bienfait en améliorant le sort de la classe ouvrière employée dans l'agriculture. Il forme avec le curé alors un établissement de miséricorde pour secourir les pauvres dans l'hiver, et il se regarde comme le père des ouvriers. Chose rare d'ailleurs pour l'époque, le comte de Villeneuve avait conscience du danger que représentait l'introduction à ce moment-là, bien modeste, du modernisme agricole. Par exemple, la faux, disait-il, est extrêmement dangereuse, parce que nous sommes habitués à couper les blés à la faucille. Pour couper les blés à la faucille, il faut déposer les javelles, et c'est le rôle des femmes qui suivent les moissonneurs de ramasser ces javelles pour en faire des gerbes. Si on coupe à la faux, et principalement à la faux à râteau, c'est-à-dire celle qui plaque parfaitement les épis coupés contre les épis qui restent droits, on n'aura plus besoin de ces femmes. Et, ajoutait-il, je crois que ce n'est pas le moment, on est en 1822, de priver de travail les ouvriers de l'agriculture, alors précisément que les mécaniques sont en train de s'installer à Castres pour filer. C'est donc un homme qui a un sens social inspiré du sens chrétien que nous retrouverons tout naturellement chez sa fille. Quant à son épouse, Rosalie d'Avecins, c'est un personnage, si on en croit Léontine de Villeneuve, qui lui a consacré un très long chapitre absolument extraordinaire. Je ne saurais vous énumérer toutes ses qualités. Elle parcourt toute la gamme du clavier de l'intelligence. Elle est très cultivée, c'est un esprit original et brillant. Elle est d'une conscience exceptionnelle. Elle bénéficie d'un sens religieux inné. Mais son âme ne quittait jamais les sommets de la raison. Et il y avait en elle peu de mysticisme. Voici ce qu'écrit sa fille. Devant Dieu, elle demeurait prosternée dans le respect, adorant sa bonté, mais n'osant lui offrir que de l'encens. Et confiant humblement en sa miséricorde, elle conservait toujours l'attitude de l'enfant qui craindrait de se trop familiariser avec son père, fût-ce pour lui témoigner son amour. Nous retrouverons peut-être aussi cela chez sa fille. Sous l'Empire, Hauterive avait connu une vie mondaine, une vie sociale intense. Castres et les châteaux voisins établissaient en effet, à la belle saison, un courant perpétuel qui ne s'arrêtait que quand venait l'hiver. On se déplaçait par toutes sortes de moyens. Les hommes naturellement à cheval, les demoiselles ou les dames plus souvent montées sur des ânes, les vieilles dames dans quelques berlines, mais les vieilles dames de l'époque ne se déplaçaient pas, elles étaient, nous dit Léontine, comme des reines qui attendaient qu'on leur fît visite. On se déplaçait aussi d'une façon plus originale, qui s'appelait prendre le trousqui. Le trousqui, c'était un moyen de locomotion que les émigrés avaient ramené d'Allemagne. Imaginez une espèce de chariot où deux bancs placés dans le sens longitudinal étaient pratiquement placés directement sur les roues. On s'entassait à 5 ou 6 de chaque côté, on prenait les enfants sur les genoux, et au premier démarrage, tout le monde tombait les uns sur les autres, se retenant au besoin au cou du voisin. Ces déplacements d'un château à l'autre, hein, c'était l'occasion de jeux en plein air. On jouait aux vieux jeux d'autrefois, le jeu des barres, la course des bagues. Quelquefois, lorsqu'il y avait beaucoup de jeunesse, on organisait des farandoles. Et surtout au château d'Hauterive, où l'on était assez austère, on avait le plaisir de la conversation. Cette conversation, elle roulait sur l'histoire, sur la littérature. Et les femmes auraient rougi d'y demeurer étrangères. Aussi, se cultivaient-elles.
On rappelait parfois aussi quelques aventures courues au temps de la Révolution. Et dans ce cas, les enfants levaient des yeux étonnés et pleins d'effroi sur ces survivants de tant de morts qui, nous dit Léontine de Villeneuve encore, munissaient leur mémoire de terribles souvenirs. Toute leur vie, toute sa vie, elle restera, et Émilie restera aussi, extrêmement conservatrice sur le plan politique, toujours très attachée au roi, se méfiant énormément de tout ferment de révolution. Il y avait aussi dans les châteaux, à la belle saison, ce qu'on appelait les allants, c'est-à-dire les voyageurs. À cette époque, en effet, les châteaux devenaient les hôtelleries. Et on s'y arrêtait pour y prendre un repas, ou encore on venait s'y installer pour une semaine, et parfois davantage. Il y avait une domesticité nombreuse que la modicité des gages permettait de payer avantageusement, et il y avait aussi de la nourriture en abondance, et cela permettait une large hospitalité. Madame de Villeneuve avait voulu d'ailleurs donner à ses enfants une éducation sévère et même une éducation rigoureuse. Son autorité n'admettait aucune résistance. Émilie, comme ses sœurs, devait être contente de tout, se soumettre à tout, sans se permettre la moindre réclamation. Leur mère entendait ainsi les accoutumer à penser qu'elle comptait pour très peu comme personnage. Car Rosalie d'Avesens, plus que l'amour, c'est la déférence et la gratitude qu'elle cherchait à obtenir de ses enfants. À table, se souvenait Léontine, au soir de sa vie, on nous dressait à demeurer en silence, nous contentant de refuser les plats que nous n'aimions point. Le menu du dîner ne se trouva-t-il pas à notre goût ? Tant pis. Personne n'avait l'air de s'en préoccuper. Quant aux primeurs, aux fruits de choix, à tout ce qui passait sur la table en petite quantité, on ne songeait pas plus à nous en offrir que nous autres à en réclamer. Ah, quelle belle poire venue de Saint-Pons j'ai vu servir à ma grand-mère. Mais il me paraissait tout simple de n'attendre qu'un menu fretin. Au salon, bien sûr, lorsque la famille était dans l'intimité, Madame de Villeneuve écoutait volontiers les récits les plus incohérents et marquait un grand intérêt. Et pendant ce temps-là, le comte, qui lisait, qui écrivait, qui allait, qui venait pour donner des ordres, se mêlait à la conversation. Mais lorsqu'il y avait de la compagnie, il fallait jouer et parler tout bas dans un coin. Et si les visiteurs s'intéressaient trop longtemps aux enfants, l'ordre venait vite d'aller se coucher, car la discipline eût pu en souffrir. Et l'on jugeait qu'il y a dans les conversations des gens du monde bien des sujets au-dessus de l'enfance qui risquent de développer beaucoup trop d'idées dans les jeunes cerveaux. Les conditions physiques étaient aussi dures. Les enfants couchaient au premier étage dans de grandes chambres où l'on n'allumait pas de feu. Et cependant, le climat du 19e siècle était plus rude que le nôtre. En toute saison, bien débarbouillés, probablement à l'eau froide. Un coup de peigne donné dans leurs cheveux coupés ras, après avoir absorbé un déjeuner composé d'une soupe à l'ail suivie d'une tartine de raisinée ou de quelques fruits, les demoiselles de Villeneuve jouaient dans la cour du château jusqu'à ce que vienne l'heure de l'étude. Leurs vêtements, confectionnés avec le concours d'une couturière locale, étaient des plus simples. Les robes, taillées dans l'indienne, ne variaient que par la couleur, clair l'été et sombre l'hiver. Ce n'est que lorsqu'on voulait les faire belles qu'elles revêtaient des tenues de percale blanche, encore s'agissait-il de percale unie, car la percale à jour, qui était un produit de luxe, était jugée comme trop fragile. À l'hiver, ces simples fourreaux de coton, un châle un peu chaud ou une pèlerine et de bons gros souliers devaient suffire pour affronter la neige, le brouillard et les vents glacés. Rentrant frissonnantes, il leur était interdit de s'approcher du feu, si ce n'est un instant, pour se dégourdir les mains. Si en cas de maladie, ce régime cessait, l'enfant n'en demeurait pas moins sous la couleuvrine de l'éducation, dit Léontine. L'obéissance devait rester absolue et les caprices étaient interdits. Peut-être pour adoucir un peu cette sévérité maternelle, les domestiques se montraient par contre pleins de complaisance pour leur petite maîtresse, La cuisine, pourvu qu'elle ne s'y attarde pas trop, était pour elle un petit empire où elle trouvait des sujets. Quel plaisir alors de voir luire dans la grande cheminée la brillante flamme qui dévore une poignée de copeaux enrubannés ou d'entendre la pétarade des châtaignes enfouies sous la braise. Il arriva même que la mansuétude des domestiques lève en cachette quelques condamnations jugées trop sévères. Ainsi, Émilie souffrait des principes de l'éducation du jour qui consistait surtout à donner aux enfants fort peu de nourriture. On l'a surpris un jour mangeant du mouron qu'elle avait ramassé dans la cour. Sa mère, pour la punir, la fit attacher dans le parc avec son petit agneau blanc et ne lui fit servir à dîner que du mouron par le vieil Antoine, un vieux serviteur. Mais je soupçonne, dit Coralie, qui rapporte cette anecdote, que le vieux serviteur a dédommagé en cachette sa jeune maîtresse, car celle-ci lui conserva depuis ce jour-là une grande affection, accompagnée d'une grande horreur pour tout ce qui est herbe. Cependant, cette vie que j'ai essayé de vous décrire tout à l'heure, c'était celle de la période de l'Empire. Et 1814, c'est précisément la fin de l'Empire. Après la naissance de son quatrième enfant, Ludovic, en 1815, la maladie devait progressivement clouer Madame de Villeneuve sur un fauteuil. Elle devait y passer même les 7 dernières années de sa vie. Et de ce fait, la campagne se transforma en Thébaïde et le château en monastère cloîtré. L'enfance d'Émilie va donc se dérouler dans un château presque toujours fermé, au sein d'une famille qui se soucie peu de cette petite fille, au reste peu démonstrative. Certes, cette petite fille a des sœurs. Mais les filles aînées du comte de Villeneuve ont respectivement 8 ans de plus, Léontine, et 5 ans de plus, Octavie, que Nana et Émilie. Cela compte à l'âge de l'adolescence. Or, circonstance aggravante pour la petite Émilie, Léontine et Octavie éprouvent des goûts communs pour la littérature. Elles se plaisent à composer des romans parlés qui évoquent de grands succès historiques tels que les Vêpres siciliennes ou encore Sur le même canapé, animant à tour de rôle les personnages. Quelquefois, on entend la petite Octavie dire à sa sœur « Oh, ne le tue pas !» Mais Léontine fait rarement grâce. Ses amis inséparables possèdent, elles, des amis de leur âge. C'est Justine de Beaune, la fille du châtelain de Lostange. C'est Coralie et Marie de Gaïs. Le château de Gaïs devient alors le rendez-vous de ces adolescentes qui vivent aux pages de Chateaubriand, auxquelles elles veulent écrire dès l'âge de 15 ans pour lui demander de venir les visiter dans leur château. Elles rêvent également de Walter Scott. Et bientôt, bien sûr, elles vont rêver de Lamartine, dont les méditations paraissent en 1820. Mais Émilie, elle est trop jeune pour participer au groupe et elle n'a d'autre relation avec ses sœurs que les leçons que Madame de Villeneuve a chargé Léontine de lui dispenser. Coralie de Gaïs, elle est plus âgée qu'Émilie, nettement même plus âgée qu'Émilie, puisqu'elle est née en 1801, elle a donc 10 ans de plus qu'Émilie. Et voici Léontine de Villeneuve, qui est très capable de donner les leçons. Elle a à ce moment-là environ 16 ans. L'étude l'a toujours passionnée. Elle dévore, elle, avec ravissement, tous les ouvrages que sa mère lui permet, fussent-ils aussi ardus que l'Esprit des lois qu'elle entreprend de lire à 15 ans. Déjà dans le secret, elle s'essaie à la composition romanesque et son instruction est très supérieure à la moyenne. Mais la patience ne fut jamais sa qualité première. Au dire de Coralie de Gaïs, qui est l'une de ses plus proches amies donc à cette époque, Léontine, qui était douée d'une imagination vive, ô combien, dès sa jeunesse, quand on lui demandait « Que seras-tu plus tard ?», elle répondait « Je serai reine hein ». Et qui avait un caractère exalté, ne trouvait dans sa sœur qu'un morceau de glace, un cœur qui n'avait l'air de rien sentir, un esprit froid, dépourvu même de cette gentillesse de petits raisonnements si gracieux à l'enfance. Aussi, dès que les leçons étaient terminées, Léontine ne s'en occupait plus et allait rejoindre Octavie, qu'elle aimait par-dessus tout. Émilie, pendant ce temps-là, restait bien seule, bien isolée. Elle jouait alors avec Ludovic, son petit frère, qui pouvait avoir 3 ou 4 ans. Et elle faisait de longs discours à ses poupées. Elle promettait des maris à celles qui étaient sages, mettait au couvent celles qui étaient méchantes, sans trop savoir ce qu'était un couvent ou un mari. Mais elle avait entendu dire à ses sœurs que l'un était fort agréable et l'autre fort fâcheux. Dès cette époque, d'ailleurs, l'enfant Émilie apparaît comme sérieuse dans ses jeux, comme dans ses pensées. Elle commence à lire beaucoup. Elle dévore tout ce qui lui tombe sous la main, dit Coralie. Et comme elle est douée d'une bonne mémoire, elle étonnera bientôt par l'étendue de ses connaissances. En revanche, elle montre peu de goût pour tout ce qui brille, la toilette, la musique et la danse. Et par-dessus tout, elle aime l'ordre. Un jour, elle surgit, vers 5 heures du matin, dans la chambre d'Octavie, saute sur son lit et lui dit « As-tu vu comme cela est merveilleux ? Quand la pendule a sonné 5 heures, toutes les pendules de la maison étaient à la même heure et ont sonné en même temps. » Octavie, qui croyait que c'était l'arrivée de ses petites cousines et qui se faisait une fête, lui dit « Mais va donc te coucher et occupe-toi de tes pendules et laisse-nous dormir en grande tranquillité. » Désormais, Émilie aura un surnom, ce sera l'exacte Émilie. Si l'on faisait quand même un peu plus attention à elle, on découvrirait que, chargée de l'éducation de son petit frère, elle met un zèle et une activité incroyables. Elle s'applique naturellement à obtenir l'exactitude de son élève. Et l'amour de l'école n'a jamais été l'une des qualités de... Enfin, tout au moins, pas à ce moment-là, de Ludovic de Villeneuve. Elle ne ménage pas sa peine. Au point d'étudier le latin afin de le lui faire mieux comprendre. Et par-dessus tout, elle sait se faire obéir, mais aussi, elle sait encourager. Cependant, sa tête naturellement positive et calme l'empêche de céder aux caprices de l'imagination dont ses aînés et leurs amis font alors leurs délices. Et parfois, on l'accuse de froideur. Ceux qui l'accusent de froideur, d'ailleurs, étant des amis qui sont habitués aux démonstrations les plus exubérantes. Ce caractère d'Émilie va être précocement mûri par les deuils qui vont jalonner son adolescence. Elle va perdre sa mère dès 1825, alors qu'elle n'a que 14 ans, et sa sœur Octavie, qui fut emportée 2 ans plus tard par une maladie de poitrine. Ces deux morts, d'ailleurs, peuvent être considérées comme des modèles. Celle de Madame de Villeneuve a été rapportée par sa fille Léontine. Elle a la majesté de l'antique. Nous sommes là, 4 enfants entourant notre mère, expirante, et notre père est avec nous. Personne, hormis elle, ne se doute que le dernier moment va venir. Elle s'est entendue avec son confesseur et son médecin pour nous cacher l'irrévocable arrêt. Elle a fait son sacrifice à elle seule, en recevant les derniers sacrements pendant la nuit. À notre réveil, elle nous a donné sa bénédiction de chaque matin, les lèvres souriantes, sachant qu'il ne lui restait plus de lendemain. Et elle ne s'est pas attendrie. Elle n'a formulé que dans son cœur ce dernier adieu. Celle d'Octavie, la mort d'Octavie, est moins stoïque, mais elle n'en est pas moins belle. Dans le récit, il y en a plusieurs, que nous a laissé Coralie de Guys. Lorsqu'elle sut qu'il fallait mourir, oh, comme ses regrets furent vifs, ses plaintes amères, qui donnera du courage à cette âme abattue? Qui versera du baume sur une plaie si douloureuse? Qui changera ses larmes en plaisir, ses craintes en espérance? Voyez cet ange du Seigneur, ce prêtre assis à son chevet, écoutez ses douces paroles. Il parle du ciel si beau, des anges dont elle doit bientôt augmenter le nombre, de Dieu qui vient lui-même la chercher pour épouse. Et voilà que le monde ne lui est plus qu'un tas de boue, la vie une entrave à son bonheur et la mort un doux réveil. Nous sommes au temps des belles morts. C'est une exclamation de Coralie de Guys que l'historien Philippe Ariès a repris pour étudier la mort romantique. Or, ces deux morts ont les caractères de la mort romantique. Les frayeurs qui faisaient trembler même les saints au XVIIIe siècle devant la mort ont disparu. La mort n'est plus seulement le repos éternel, l'apaisement narcotique qu'avaient vanté les encyclopédistes et qu'exprime encore Lamartine lorsqu'il s'écrit « Je te salue, ô mort, libérateur céleste. Tu ne m'apparais point sous cet aspect funeste que t'a prêté longtemps l'épouvante ou l'erreur, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Ton front n'est point cruel, ton œil n'est point perfide. Au secours des douleurs, un Dieu clément te guide. Tu n'anéantis pas, tu délivres. » Mais la mort, à l'époque romantique, est devenue plus que cela. Elle est devenue un événement heureux. L'accès au paradis, considéré comme un monde invisible, semblable au nôtre, où les générations sont réunies et qui enveloppe le monde des vivants. Aussi, le malade est-il toujours informé de son état ? Madame de Villeneuve l'était, et Octavie, nous le savons par un autre récit, l'était aussi. Il dicte ses dernières volontés, il préside sa propre mort, il bénit sa famille, car il rayonne déjà de la proximité de Dieu, il s'efforce de consoler ses parents, il manifeste même de la joie. Or, en ces deux occasions, Émilie a surpris son entourage, et par son absence d'émotivité. Or, l'émotivité, c'est précisément ce qui caractérise l'attitude des vivants en face de la mort. En effet, curieusement, cette période sans inquiétude sur le sort qui est réservé aux défunts, dans l'au-delà, ignore plus qu'aucune autre que les grandes douleurs sont muettes. Et elle croit nécessaire d'accompagner la séparation du versement d'abondantes larmes, non pour plaindre le disparu, mais pour servir d'exitoire et ainsi pour adoucir la peine de ce qui reste. Ainsi, Coralie écrit à Léontine, à la suite de la mort d'Octavie, « Je viens pleurer avec vous et essayer de soulager mon cœur. Ce n'est pas elle qui est malheureuse, en parlant d'Octavie, mais vous. » Et elle ajoute quelques jours plus tard, « Il me semble que vous êtes malade. Vous ne pleurez pas assez. » Au demeurant, d'ailleurs, cette épistolière de Coralie n'est pas dupe. Et elle le décrit en plusieurs circonstances, nous l'avons vu dans un précédent exposé, des manifestations très ostentatoires, qui ne sont que convenances sociales ou simples réactions superficielles. Par exemple, écoutons là narrer les débordements d'une dame de la société castraise qui vient de perdre sa plus jeune sœur. Madame de Lestiès a presque perdu la tête. Elle va dans ses immenses appartements en criant « Esther, ma sœur, tu ne me réponds plus. Va dire au bon Dieu de te laisser venir un petit moment afin que je te voie encore. » Le monde invisible qui est autour du monde visible, n'est-ce pas ? Elle pleure ensuite à torrents, puis ne verse plus une larme. Sa douleur est affreuse, conclut Coralie, mais elle ne sera pas longue, car son caractère est trop vif et trop léger pour que cet état puisse durer. Donc, personne ne se fait d'illusions sur ce qu'en sont les larmes de l'époque romantique. Et pourtant, l'insistance que Coralie a mise à souligner l'insensibilité d'Émilie dans son jeune âge a accrédité l'idée en voyant le contraste qui existait entre cette insensibilité du premier âge et la bonté qu'elle avait manifestée ensuite dans toute sa vie. Elle a accrédité l'idée qu'il y avait eu une mystérieuse et soudaine illumination d'Émilie, ce qu'on pourrait appeler le mystère d'Émilie. À un moment, elle a été transformée. Les biographes successifs d'ailleurs ont repris cette thèse, et ils l'ont située à des étapes différentes de sa vie. C'est ainsi que Coralie, elle, place cette transformation à la mort d'Octavie, sans trop se soucier d'ailleurs d'avoir affirmé à la page précédente qu'elle était au pied du lit de mort de sa sœur, sans aucune trace d'émotion. Et à la page après, elle dit « elle versait des larmes amères ». Le premier biographe, Louis Emma, lui, a voulu y voir l'effet de sa première communion, en négligeant d'ailleurs un témoignage formel de Coralie disant qu'elle n'a manifesté aucune émotion. Et en donnant pour preuve de cela l'exemple de Sophie Barra, la fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, qui, elle, avait été transformée par sa première communion. Le comportement d'Émilie, en fait, n'a pas besoin d'explications aussi merveilleuses. Comme sa mère, que Léontine ne se souvenait pas d'avoir vue pleurer, elle était au-dessus de la faiblesse des larmes, surtout en public, et surtout lorsque celle-ci avait pour objet l'attendrissement sur soi-même. Octavie, d'ailleurs, avait elle-même puisé dans le stoïcisme de Madame de Villeneuve la force de renoncer sans se plaindre aux promesses de sa jeune vie. Son médecin lui témoignant l'étonnement que lui donnait sa résignation, « Ah, monsieur, lui répondit-elle, j'ai trop vu souffrir ma mère sans se plaindre pour ne pas profiter d'un si bel exemple. » Et ce courage qui masque la sensibilité n'est pas l'insensibilité, bien au contraire. La correspondance d'Émilie que nous possédons à partir de 1830, toujours soucieuse de la santé de ses proches, en apporte la preuve. La manière dont elle ressent en 1831 la disparition de sa grand-mère de Villeneuve est particulièrement significative. À l'annonce de la maladie, voilà qu'elle accourt à Toulouse. « J'aurais été trop inquiète », écrit-elle à Léontine. Et elle-même a grand soin de terminer chacune des lettres qu'elle envoie quotidiennement à sa sœur par cette remarque « Si je ne t'écris pas demain, ne sois pas inquiète ». Et lorsque l'issue fatale s'est produite, la missive qui fait le récit des derniers moments ne comporte ni le mot « pleure », ni le mot « larmes », mais un post-scriptum bien plus significatif. « Pourras-tu me lire ? Ma main tremble ». Et cette réflexion aussi, qui éclaire définitivement le passé et qui donne aussi, je crois, la clé de son âme. Que de chagrin dans ma vie. Pour ma part, je suis bien jeune. Et cependant, je l'ai déjà bien éprouvé. Enfin, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. La force de se soumettre, sans un murmure, Émilie la trouve en elle-même, fortifiée depuis l'enfance par une éducation qui visait à former le caractère, à le soumettre à la raison et à le plier au devoir pour le préparer ainsi aux luttes inévitables amenées par les événements de la vie. Mais elle l'appuie aussi dans la religion. De ce point de vue-là, la pratique de Madame de Villeneuve s'exerçait plus par la prière personnelle que par les dévotions publiques. En elle subsistaient des traces de la foi huguenote des Davecens. Léontine ne cache pas qu'elle paraissait à la messe dominicale, surtout parce qu'elle avait à cœur d'édifier les habitants d'Hauterive par son exemple. Il est probable qu'elle inculqua à ses enfants, avant tout, la recherche d'un contact personnel avec Dieu. Après la disparition de sa mère, Émilie subit d'autres influences. D'abord, le comte de Villeneuve, déjà très occupé par la surveillance de ses domaines, venait de transformer son moulin d'Hauterive en filature de laine. Il ne pouvait pas s'occuper personnellement de ses trois filles. Selon Léontine, sa répugnance à faire passer son autorité sur sa famille et d'autre part son inexpérience comme gouverneur de jeunes filles lui fit adopter pour système de les abandonner à elles-mêmes. En fait, il chargea Léontine et Octavie de s'occuper des plus jeunes enfants. Et comme l'intelligence d'Émilie était orientée vers toutes les questions religieuses, ses sœurs favorisèrent ses pieux penchants. À cette époque également, les jeunes filles effectuèrent quelques séjours à Toulouse au domicile de leur grand-mère. Donc, elle allait vivre chez sa grand-mère qui était à Toulouse, qui était fort âgée, aveugle, et qui réunissait malgré tout, Rose d'Amblard avait toujours aimé la conversation, elle réunissait dans son salon toute la ville, les mondains comme les dévots. Émilie prenait ordinairement peu de part à la conversation. Voilà encore une chose que Coralie a l'air de lui reprocher. Mais cela n'est que conforme à la bienséance toulousaine qui voulait, Léontine nous l'apprend d'autre part, que les jeunes filles se confondissent avec leurs chaises et demeurent aussi silencieuses que si elles avaient pris place à une exposition de portraits. Alors qu'à Castres, au contraire, les jeunes filles étaient au centre de toutes les conversations. On les mettait au premier rang, et il n'y en avait que pour elles. Toutefois, lorsque des amis religieux venaient voir sa grand-mère, elle se rapprochait du cercle et elle les écoutait avec avidité, surtout lorsqu'ils parlaient de Dieu et des choses du ciel. Car la prière et la fréquentation des sacrements faisaient ses délices. C'est justement le mot qui convient pour parler de cette religion romantique. Le message chrétien se trouve en effet, depuis l'Empire, présenter de nouvelles résonances. L'austérité janséniste, qui avait marqué la pratique au XVIIIe siècle, a reculé. Dieu est moins terrible qu'autrefois, nous l'avons vu dans la mort. Sous l'impulsion grandissante de Rome et des jésuites, et il y a des jésuites qui fréquentent le salon de sa grand-mère, la religion devient sensible au cœur. À la même période, l'archevêque d'Albi tient à savoir si les tabernacles des églises de son diocèse sont bien dorés extérieurement et doublés de velours cramoisi intérieurement afin de mieux émouvoir les fidèles par leur beauté. Et le culte de la Vierge fait l'objet de toute son attention. Je pense, je n'ai pas fait de recherche particulière, je n'ai pas eu le temps, mais je pense qu'à Haute-Rive, on avait une congrégation de la Vierge et on devait réciter le rosaire comme on le récitait à peu près dans toutes les paroisses, notamment à Gaïs. Afin de reconquérir les foules après la persécution révolutionnaire, l'Église multiplie les cérémonies publiques spectaculaires. À l'époque où Émilie séjourne à Toulouse chez sa grand-mère, s'y déroulent des processions fastueuses dans les rues qui sont décorées de draperies et de fleurs, et au dire d'un témoin, Toulouse est alors la première ville du monde pour les processions. Comment l'imagination la plus froide n'en serait-elle pas touchée ? De plus, à cette époque, dans la classe instruite de la société, la lecture du génie du christianisme de Chateaubriand, et Chateaubriand c'est le héros de Léontine de Villeneuve, de Coralie de Guys, le génie de Chateaubriand avec le génie du christianisme vient de faire entrer la poésie dans la religion. Émilie, par exemple, l'entourage d'Émilie succombe volontiers au charme d'une dévotion qu'embellissent à tout instant les réminiscences bibliques. Il suffit, par exemple, que la petite église d'Haute-Rive soit dans l'obscurité, qu'un pâle rayon de la lampe illumine le tabernacle, donc quand tout le reste est dans l'ombre, pour que Coralie de Guy se figure le mont Tabor, sa nuit lumineuse, et croit entendre la voix ravissante proclamant à l'adresse du Christ transfiguré « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Émilie éprouve aussi le plaisir de s'abandonner à ces douces sensations. Ça n'est pas douteux, vous allez le voir dans sa remarque. Mais la fille de Rosalie d'Avecins ne cède pas à leur ivresse. « Vous ne vous attachez qu'au charme de la piété », reproche-t-elle à son ami. « Mais lorsqu'il faut se vaincre, se renoncer, supporter un chagrin, vous perdez courage. Ce n'est pas ainsi qu'on aime Dieu. Se vaincre, renoncer à son confort, accepter avec soumission un chagrin, voilà ce qu'Émilie de Villeneuve appelle aimer Dieu. » Et Coralie note que dans le recueillement qui suit la communion, Émilie entendait ordinairement une voix qui la remplissait de courage et de force, bien plus que de douceur et de suavité. Cependant, la mort d'Octavie avait obligé Léontine et Émilie à venir vivre ensemble à Haute-Rive, ces deux sœurs qui se ressemblaient, notre Coralie, comme une Anglaise et une Espagnole. Et au dire de Léontine, s'apportaient mutuellement, l'une prenant le bon sens de l'autre et l'autre dérobant, c'était Émilie à Léontine, la hauteur des idées pour aller chercher son Dieu. Mais en 1829, Léontine de Villeneuve se maria. Jusque-là, elle avait repoussé tous les prétendants qui s'étaient présentés. Elle avait même envisagé d'aller vivre à Paris pour être enfin reçue dans les salons où elle verrait les célébrités. Et puis, M. de Villeneuve, se décidant enfin à faire parler l'autorité, lui avait présenté deux prétendants et lui avait dit « Voilà, je te donne 15 jours, il faut que tu épouses l'un d'eux. » Et elle avait choisi celui qu'elle connaissait. Donc, le mariage de Léontine place Émilie à la tête de la maison de son père. Nous sommes en 1829. Le gouvernement du château, à ce moment-là, qui avait été abandonné depuis de longues années à de vieux serviteurs, avait grand besoin d'un chef. Et le comte de Villeneuve était absorbé par la surveillance toujours de ses domaines, la marche de ses usines, et maintenant, charge supplémentaire, l'administration de la ville de Castres, puisqu'il fut maire de Castres de 1826 à 1830, et qu'il a laissé à la ville la place Jean Jaurès, qui traînait, on peut dire, depuis pratiquement un siècle. Dont le comte de Villeneuve ne pouvait s'occuper personnellement de son château. Il ne portait guère d'ailleurs d'intérêt à l'intendance domestique. Et il faut dire que la tâche s'annonçait bien difficile pour une jeune fille qui avait à peine 18 ans. Eh bien, Émilie la remplit avec une activité, une intelligence qui enthousiasmèrent Coralie de Guise, toute surprise de son aisance à régler les dépenses, à surveiller les domestiques, à établir partout un ordre admirable. Son père, émerveillé d'une tête si bien organisée, nous dit-elle, l'a consulté souvent et s'était repenti plusieurs fois de n'avoir pas suivi ses conseils. La vie solitaire qu'elle mène, d'ailleurs, toute seule maintenant dans ce château d'Hauterive, où son père ne vient pas même passer la Noël toujours, elle la passe avec Coralie de Guise, pourrait lui peser. Eh bien non, ne crois pas que je m'ennuie, écrit-elle à sa sœur. Je me plais à Hauterive vraiment beaucoup. Je suis tout étonné que cette solitude me paraisse aussi agréable. Je lis, je me promène, et la promenade me plaît. C'est à ce moment-là que se nouent des relations de plus en plus étroites avec la famille de Guise. La famille de Villeneuve et la famille de Guise avaient été amies dès 1816 approximativement, mais Émilie était trop petite et elle avait été écartée de ces relations. Maintenant, elle se retrouve toute seule. Coralie se retrouve également toute seule. Elle est sur le point de perdre sa mère. Bientôt, elle l'aura perdue. Et les deux jeunes filles, les deux jeunes femmes, vont passer de plus en plus de temps ensemble. Émilie se sent accueillie dans le château voisin comme un membre de la famille, dit-elle. Et donc, le décès de Madame de Guise va encore rapprocher de Coralie et faire de celle-ci sa confidence. Que de beaux jours, se souvient Coralie, alors, avons-nous passé ensemble. Que de souvenirs touchants se rattachent pour nous à ce lieu d'Hauterive, à cette longue allée du vieux château de Guise, à ce petit sentier que nous suivons si souvent, ou l'oiseau que nos pas effrayés, la feuille que le vent emportait, le nuage mobile, la fleur que nous cueillons en passant, nous parler de Dieu d'une façon merveilleuse. Cependant, Émilie a la fréquentation de cette romantique qu'est Coralie de Guise. Je ne pense pas qu'Émilie voyait nécessairement Dieu dans la feuille qui s'en allait. Se met à son tour à devenir romantique. Elle écrit à sa sœur une lettre tout à fait étonnante dans laquelle elle lui dit qu'elle devient de plus en plus une admiratrice de Lamartine, qu'elle se prend à chercher, être à la piste des citations, des harmonies qu'elle vient de lire, et qu'elle cherche cela, elle aussi, dans le vent, dans les feuilles, n'est-ce pas ? C'est un aspect d'Émilie fugitif qui n'apparaît qu'une fois. Tout de suite après, elle parle d'une robe qu'elle va envoyer dans sa lettre et qui nous révèle peut-être un aspect du paysage. Du personnage qui nous est inconnu. Cependant, elle se conduit dans le château à la façon dont se conduisent toutes les demoiselles de cette époque-là, c'est-à-dire qu'elle s'occupe en promenade, certes, mais elle fait aussi des bonnes œuvres. Elle organise des congrégations de jeunes filles, elle visite des malades, elle distribue des images pieuses et tout le monde est ravi de son action et elle se plaît particulièrement aux solennités de l'Église et aux sermons. Son seul plaisir, c'est d'aller à Toulouse une fois l'an au carême pour écouter quelques sermons et de beaux sermons, parce que dans la petite église d'Hauterive, on ne fait que la lecture en patois le plus souvent d'un texte de l'Évangile, et pouvoir ainsi accéder à une connaissance plus approfondie de sa religion. La seule chose à laquelle elle répugne, c'est à recevoir. Dans un salon, en effet, Émilie se sent particulièrement gauche. Elle a la vue très courte, nous dit Coralie, et cela lui donnait un air absent et même impoli. Et de surcroît, elle avait un clignotement d'yeux qui faisait une apparence étrange. En plus, les salons de la société castraise, à ce moment-là, n'étaient guère faits pour lui plaire. On y voit des dames qui se déchirent, des hommes qui poussent un petit peu à la discussion et qui ensuite se moquent de celles qu'ils ont le plus vantées, des fausses apparences. Tout cela n'est pas fait pour Émilie. Aussi reçoit-elle peu, elle n'aime pas ses mondanités, et elle qui a une taille sans grâce, qui se moque de ses cheveux, que par contre elle a très beaux, qui sont d'un roux vénitien, bien, elle sent qu'elle n'a rien à faire dans le monde. Justement, se pose à elle le choix de son avenir, ou la décision de son avenir. Elle peut penser au mariage. Plusieurs parties se sont présentées. Des mères attirées par sa fortune, parce que généralement on compte d'abord la fortune à cette époque-là, ont fait des demandes en mariage. Elle les a toutes repoussées. Il lui semble en effet bien difficile de tenir son cœur au ciel lorsqu'on a un mari, des enfants et 100 000 liens qui l'attachent à la terre. D'autre part, elle réfléchit aussi sur le simple célibat. Elle a devant elle l'exemple de Coralie de Guise qui se plaint. Combien de parties d'écarté a-t-il fallu que je perde pour obtenir de mon père qu'il accepte de faire ceci ou de faire cela, hein? Et qui, dans l'une de ses dernières lettres, écrira cette phrase un peu désabusée, que c'est Coralie, bien sûr, que c'est joli de mourir jeune. L'on évite la vieillesse et son triste cortège. L'on n'a pas à rendre compte d'une longue vie passée comme la mienne dans l'inutilité. Or, précisément, je pense qu'Émilie a toujours eu le sens d'être utile. Elle a aussi toujours eu le sens de renoncer à tout ce qui pouvait faire son confort. Et c'est pourquoi elle annonce un jour à Monsieur de Villeneuve, après avoir longuement réfléchi, longuement consulté et aussi longuement prié, « Je voudrais être sœur de charité. » On ne s'est jamais demandé, et d'ailleurs, il faut bien reconnaître que la discussion et la réflexion est un peu oiseuse, pourquoi elle avait choisi d'être sœur de charité. Certes, on pourrait imaginer qu'elle a choisi un ordre dont elle pouvait connaître le fonctionnement autour d'elle, puisque Mgr Barral avait appelé les sœurs de charité à s'occuper de l'hôpital de Castres dès le XVIIIe siècle, et que donc elle les connaissait. Elle pouvait aussi les connaître à Toulouse. Mais après tout, elle aurait pu choisir aussi n'importe quel ordre qu'elle aurait pu connaître. Elle aurait pu devenir dame de la présentation. Pourquoi a-t-elle cherché à être sœur de charité? Peut-être faut-il trouver la réponse dans la réaction de son père. « Si tu deviens sœur de charité, nous ne te reverrons plus jamais. Nous tremblerons lorsqu'il y aura la moindre maladie. Nous risquerons à tout moment de te perdre. » Et justement, prier, aimer Dieu pour Émilie, c'est renoncer à son confort, renoncer à ce qui pourrait être sa satisfaction personnelle, et peut-être que cela lui a été apparu comme étant la meilleure des vocations. Et puis, la famille, bien entendu, a réagi. Son père, de la façon que je vous ai signalé, Léontine qui arrive, elle n'était pas arrivée à la mort de sa grand-mère, mais elle arrive lorsqu'elle apprend que sa sœur va se faire religieuse. Et ce furent des extravagances, des raisonnements de l'autre monde, écrit Coralie, mêlés de phrases sentimentales, qu'il fallait avoir un cœur bien dur pour abandonner ainsi son vieux père, que pour se sauver, il ne fallait pas prendre la lune avec les dents, et qu'on pouvait faire son salut tout autrement. Et puis il y a Madame de Palarin, sa tante, qui faisait elle aussi des raisonnements à perte de vue, et qui finissait sa réponse en disant qu'elle pensait bien que ses réflexions ne feraient aucun effet sur sa nièce, dont le caractère était l'entêtement. Émilie, devant ces réactions de sa famille, qui l'ont surprise, parce qu'elle pensait notamment qu'elle était parfaitement inutile à son père. Elle faisait remarquer que dans sa dernière maladie, il ne s'était pas occupé d'elle, qu'un vieux serviteur ferait très bien l'affaire. Émilie disait... Ils ne comprennent pas. Ils me prennent pour insensible. S'ils savaient combien je souffre, mais s'ils savaient aussi quel plaisir on peut éprouver dans le renoncement. Ce renoncement, on devait lui en demander plusieurs encore. Le premier, c'est de différer le moment de sa prise de vue. On espérait que le temps aidant, peut-être, elle changerait d'avis. Le second est apparu sous la forme d'une lettre étrange que M. de Beaune, un saint homme qui passait l'été dans la montagne, envoya un jour à Coralie de Gaïs, avec pour mission de la transmettre. Je vous la lis parce qu'elle est assez extraordinaire sur ce qu'elle révèle des bonnes intentions de l'époque. C'est bien, je vous assure, sans pensée préalable, qui sait si peut-être la famille de Villeneuve n'avait pas un peu suggéré, c'est bien, je vous assure, sans pensée préalable et surtout sans y être incliné, ni excité par personne, il met tellement de précautions à le dire, car les habitants de Gosse n'auraient pas pu la concevoir et en sont en 100 lieues, qu'il m'est venu à l'idée cette idée, que votre bonne amie, mademoiselle de Villeneuve, devrait faire une miséricorde d'enfants volés, sous telle forme qu'elle voudrait. Mais enfin, me direz-vous, qu'est-ce que c'est que ces enfants volés? Et quel rapport a cette œuvre singulière à mademoiselle Émilie? Le voici tel que je l'entends. C'est une œuvre qui consiste en une maison dirigée par des religieuses qui ont pour but de voler des enfants. Et en effet, lorsqu'on leur désigne un enfant qui a un père et une mère inhabiles à l'élever et qui, au fait, en sont embarrassés, elles les leur escamotent et après avoir eu facilement leur consentement, quand même, elles les soignent, les élèvent, en font d'aussi bons chrétiens que possible et les gardent jusqu'à ce qu'ils aient appris une manière de gagner leur vie. Vous comprenez que la matière de cette œuvre ne manque pas. Mais l'on n'en prend que le nombre qu'on peut élever, et si petit qu'il soit, on est toujours bien refait d'avoir fait un chrétien d'un enfant perdu et d'avoir façonné pour le ciel une pauvre créature qui semblait n'être faite que pour l'enfer. Et après 8 pages, nous dit Coralie, de détails sur cette fondation, il se décidait à signer. Donc, voilà qu'un nouveau projet se présente devant Coralie, qui en fut encore une fois très contrariée. La dernière chose que je vois, disait-elle, c'est que je sois une fondatrice d'ordre. Mais enfin, encore le renoncement, si Dieu exige aussi le renoncement de mes goûts, je le lui fais de grand cœur. Le renoncement, c'est décidément l'image que donne Émilie de Villeneuve, telle que j'ai essayé de vous la montrer parmi les siens, peut-être en vous intéressant, peut-être sans tout à fait y parvenir. Je vous remercie.